un travaillé.
Scale being from black to white, also all the gray tones in between, from small to large, from quiet to loud, and trying to really exercise all of the subtlety and differences that exist between these extremes.
Donc c'est en fait l'idée de s'exercer à toute la subtilité qui existe entre les extrêmes, entre le fait d'être silencieux, le fait d'être très fort, entre le fait d'être blanc et noir, il y a tous les gris, de très petit à très grand, etc.
Of course, there's also a little bit of a narrative in the piece, almost like birth and death, but this is like a afterthought. Of course, it exists there, but I was thinking more about death than I was thinking about birth, but I didn't realize until later there is something very nascent about the beginning. But that was, yeah, nascent. That means like birth-like. But.
Et donc il y a une forme de récit aussi à l'intérieur de la pièce parce qu'on va de la naissance à la mort, de la mort à la naissance, et que mais ça, pour elle, c'est une. C'est une pensée qui est venue seulement après la création de la pièce.
But I didn't start with the dramaturgy. In a way, the dramaturgy was discovered as the logics between the materials found themselves in relation to each other.
Donc je n'ai pas commencé à travailler sur la dramaturgie en tant que telle, mais la dramaturgie s'est découverte après, en fonction des différents éléments qui se sont révélés dans la pièce.
I started with the interest in the materials themselves. I mean, it was the first time because of a desire to change my way of working, where I start a lot with a certain concept or a certain question, and I do a lot of reading or writing or discussing and conceptualizing before I move. It's probably a side effect of having to write a lot of dossiers before I do anything. And this time I took the opportunity just to be in the studio without a concept preceding the material. So I started very intuitively with what things I wanted to do, what things I wanted to see. Actually, the first concept was the bear suit. I mean, I had this kind of interest to. It was the suit. The suit was the first vague idea, and it just started with all the different ways that I could style a bear suit. I mean, it was that stupid in the beginning.
En fait, contrairement aux autres pièces que j'ai faites, je n'ai pas commencé à réfléchir aux concepts, aux différentes idées que je pouvais articuler et qui étaient souvent plutôt le résultat de tous les dossiers que j'ai dû écrire pour ces pièces. Cette fois-ci, je suis directement allé en studio, j'ai commencé de manière très intuitive, et là, sans avoir de concept préalable au fait de rentrer en studio. Et la première vraie idée que j'ai eue pour démarrer, c'était l'idée de l'ours et du costume d'ours qui a été en soi la première idée du départ.
And it was also, I had a lot of interest in the fine line between something very material and affective and corporal and just a certain appetite to do something which is abstract almost. When is material abstract and more about sensation or percept, and when is a material very personal or narrative or full of character or drama or literal meaning? And I was really interested to treat the things that are very literal in a very abstract and very corporeal way, and to take the things that could be very abstract, like a pile of fur in the beginning, and look for all the emotions or all of the different expressivity that you can see just with folding fabric. So to try to inverse the perception between what is flesh as an object and what is very personal or emotional, which is actually just an action or just a sensation. Is that making any sense? Treating the things that are very acting with an approach that's more like a dance practice, and treating the things that are very technical from a more personal or embodied, lived way.
Alors, donc en fait,
am I killing the piece right now?
Si je résume. L'idée, c'est en fait qu'elle tente de traiter de manière plus figurative les choses qui sont à la base quelque chose de plus abstrait, comme par exemple un tas de fourrure qui se présente et dont elle essaye de tirer quelque chose de plus figuratif, finalement, de plus corporel, et inversement, de traiter de manière abstraite des choses qui, à la base, sont plutôt figuratives, qui sont plutôt matérielles. Et de faire d'un corps de danse qui se prête en principe à quelque chose de plus abstrait, quelque chose de très figuratif, et de faire de quelque chose qui est une histoire ou de faire quelque chose qui est un récit personnel, quelque chose qui devient tout à fait abstrait. Donc d'inverser en fait les paradigmes par rapport à l'abstraction et à la figuration.
Which had something to do also with taking, if I go to the studio with myself, I confront myself, of course, which is also a bit the nature of a solo. So how do you make a solo which isn't only autobiography or self-expression when you are the material, in a way? When I just go in the studio and I really want to get back in touch with my personal desires and my personal interests, it is a personal question. I'm doing things which are personally close to me. And how, yeah?
Donc, si je vais en studio avec moi-même...
And how can I treat myself as material? As material in a piece like you would compose and think about scale and black, white, death, whatever. I mean, but it's instead of making an autobiography, making work, making artwork with myself as material. So also taking distance with myself and playing with myself and messing with what is actually true about myself and what has nothing to do with my actual autobiography or whatever.
On est au cœur de la question d'un solo par rapport au fait qu'on traite, qu'elle traite de la, d'elle-même et donc de sa propre biographie. Et donc, de comment traiter la question de ma biographie en étant sur scène, c'est le cœur exact de la pièce puisque c'est un solo. Et la dernière partie...
How do you treat yourself as material?
Donc, en fait, c'est ça, la question centrale, à savoir comment est-ce qu'on fait de soi-même, comment est-ce qu'on fait de soi-même un matériau artistique. Et comment est-ce qu'on se projette soi-même en scène et dans un travail de studio d'abord comme matériel artistique pour soi-même, ce qui devient tout à fait évidemment paradoxal.
Which is also to be able to take distance with yourself and
ce qui est donc aussi une manière de prendre distance avec soi-même et de se mélanger, de faire un gros une grosse chose pas très claire avec soi-même.
C'est clair, hein.
Bon, une question pour Marie-Caroline maintenant, parce que alors là, ce solo toujours peuplé, ce travail extraordinaire avec les micros, les sons, le pop-corn toujours. Alors bon, on était parti de Fly Girl, où tu étais toute seule. Ensuite, on a eu la seconde pièce, là vous étiez deux sur scène. Là, tu es à nouveau seule, mais avec beaucoup de personnages qui physiquement sont campés sur le plateau par ces micros. Auparavant, tu évoquais des choses qui matériellement n'étaient pas incarnées. Là, bon, ils sont là physiquement. Tu l'annonces cette pièce comme étant le troisième volet d'une trilogie, donc le dernier, je suppose. Qu'est-ce que je peux. Alors, j'ai envie de repiquer une formule qu'Éléonore avait dans son spectacle. Donc. Maintenant, tu dis, voilà, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui est clos avec cette pièce, peut-être.
Finalement, j'ai changé d'avis, c'est plus une trilogie, c'est des chapitres.
Magnifique, magnifique.
Ouais, c'est, donc ça va continuer.
Bon, très bien.
Et c'est vrai que bon, c'est tout un travail sur l'identité, sur des identités fragmentées, que j'avais commencé avec Fly Girl. Et ici, je voulais m'accompagner de personnages virtuels. Je ne sais plus quel philosophe, Socrate ou Platon. Enfin, il dit qu'on a des voix constamment dans nos têtes. Et ça, c'était la base du travail.
La réminiscence.
Voilà. Oui, puis qu'on est... moi, enfin, je ne sais pas. J'ai toujours des voix qui me traversent l'esprit, qui me parlent, et des espèces de personnages comme ça. Mm-hmm. Donc ces personnages, je les ai... dessinés et sont devenus Andrew, Ricardo, Bobby et tout ça.
Toujours avec des choix de prénoms absolument...
ouais, c'est... Ouais. Multi-ethnique.
Ouais. Bon, très bien. Avant d'aller plus avant, donc je vais laisser la parole à notre grand témoin de ce soir, donc, qui est Nathalie Zeriri, qui est une spectatrice assidue des scènes contemporaines et de ce festival en particulier. Voilà, moi je lui laisse la parole et c'est elle qui a accepté ce soir de vouloir nous livrer d'abord son ressenti, ses idées.
Merci, alors d'abord bonsoir. Je ne sais plus si on peut dire bonsoir de la même manière, mais ça donne envie de le dire et encore, bonsoir. Alors moi j'aurais une première question à vous, cette idée du pop-corn et du partage, d'où vous est-elle venue? parce qu'on assiste à une confession, on assiste tout à coup à la révélation. Alors on ne sait pas si c'est le récit d'une schizophrène, si c'est les multiples identités, si tout à coup c'est un violent besoin de confession, et tout peut s'entendre en même temps. Et alors, ce qui m'a intéressée, c'est ce moment fabuleux où nous étions tous en train de manger du pop-corn. C'est quand même pas habituel, vous sur scène, nous-mêmes. Et puis il y a eu un moment, et ce moment-là m'intéresse encore davantage, où finalement, entrant dans le récit, entrant dans ce mystère que vous présentiez sur scène, on a cessé de manger du pop-corn, comme si tout à coup on se détachait. Donc j'ai aimé le moment de la communion, mais j'ai aussi aimé le moment où tout à coup, bien que vous continuiez sans cesse à nous dire bonsoir ou bonjour ou hi, tout à coup, nous laissions notre pop-corn. Alors comment vous avez imaginé cette relation avec le public ?
En fait, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a une sorte de mimétisme qui se passe. Je mange et les gens ils se sentent autorisés à manger. Avec le pop-corn, ce qui m'intéressait, ou ça aurait pu être autre chose, et bon, là, il y avait la référence au cinéma, comme de la neige, enfin, la légèreté, plein de choses. Mais ce qui m'intéressait, c'était que les gens soient occupés à faire quelque chose. Finalement, je vous donne quelque chose à faire. Et que je pourrais faire n'importe... Je peux presque faire n'importe quoi, mais vu qu'il y a cette occupation, l'action de manger, et comme l'action, on consomme du spectacle, on consomme quelque chose, on se nourrit de quelque chose. Et je voulais, c'est ça qui m'intéressait d'observer.
Et ce bonsoir qui, alors il y a eu un moment où le public spontanément répond, et puis tout à coup ce bonsoir on ne trouve plus d'écho, c'est assez troublant.
Ouais.
C'était bonjour d'abord. Ouais. Bonjour. C'est vrai. Bonsoir.
Ouais, ben c'est. C'est comme moi, j'imaginais ça comme des espèces de stations, quoi. Je me pose avec ces mots, c'est une sorte de métronome qui parce que le personnage, il est dans une sorte de léthargie. Non, c'est pas le mot. Mince.
Étant donné la violence du spectacle.
Non, mais je veux dire qu'il est. Du coup, ça revient. C'est quelque chose qui revient et qui est presque une confession. Il est là. Il dit. C'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de la confession ou de.
Ou de l'obsession. Quelque chose qui inlassablement revient.
Et les gens, au début, ils croient que je m'adresse à vous, mais en fait, je m'adresse à tous ces gens qui sont dans ma tête, et que ce soit mes personnages qui sont ces micros, que c'est d'autres choses, voilà.
Merci.
Ouais.
Et ma deuxième question, c'est pour vous. C'était sur ce splendide moment où vous êtes en haut de l'échelle, et où on a la tentation du vide, qui dure 2 secondes, où vraiment, en plus, se superpose l'image de la peau d'ours, qui est presque, au départ, comme l'image... Je vois l'œil de Benoît, donc je vais arrêter entre chaque, qui est comme l'image d'un corps mort. Cette tentation du vide est la façon dont vous avez pensé la chute, c'est-à-dire dont vous avez retrouvé ces gestes pour tomber de l'échelle, mais tomber toujours dans la maîtrise. D'où vous est venue cette idée ? Parce que comment redescendre de l'échelle après cette longue montée ? Est-ce que vous avez eu la tentative du saut ou de la chute ? Vous parliez de mort tout à l'heure.
I knew what I wanted to do to get up the ladder, and then when I got there, it was actually a friend who came to see a showing. He was like, you can't go back down the way you came up. You have to do something even more crazy going down. So then I was like, I should do acrobatic shit. And he was like, that's it. And so it was really just the point of going, if the piece is always pushing something so far past its limit, you can only go farther. You can't resign. If I get to the top, I can't just say, okay, no, I'm just going to walk back down. No, you have to find a way to take the situation and transform it and go somewhere else. I can't keep going. It's just a dramaturgical choice. I don't like going back. You have to keep moving forward. I have bad answers today.
Donc c'est la question de ne pas revenir en arrière. Et donc c'est toute la question de savoir comment est-ce qu'on arrive à aller encore plus loin quand on est déjà allé aussi loin de la manière à laquelle on est monté sur cette échelle. Et donc il était hors de question de revenir en arrière et de redescendre à la manière qu'on était monté. C'est ce qu'il lui a dit un de ses amis qui est venu voir une répétition. Et donc l'idée de cette tentation du saut, en tout cas de la simulation du saut, est arrivée à ce moment-là. Et puis du coup, la déclinaison de cette formule de redescente qui est pour elle une manière d'aller encore plus loin que là où elle était arrivée.
But actually, the gesture of threatening to do a jump or a dive, it actually came after I started to perform it and I realized people were scared. I didn't know it was scary at the top. I can't believe how stupid I sound with this piece, but it was like that. Like I was working, and half the time I wasn't aware of what I was working on until I watched the video many times or I had people coming in. I knew why I was doing each thing. I knew what I was interested in researching, but because I was so inside, the external perspective of realizing what's funny, what's scary, what's sad, what's touching, what's confusing, what's mysterious, all of these things, which really come from an observer's perspective, I had to watch a lot of video. I had to perform it many times and watch the videos to find all of these subtle turning points where, and I end up adding a lot with each performance in between. Like the blocks are clear, but this gesture of threatening to dive came actually after the piece was made. It came maybe after the fifth time I performed it or something. It's still a work in progress.
Donc, en résumé, cette idée du saut et de la simulation du saut, elle est venue qu'après, en réalisant à quel point les gens pouvaient éventuellement avoir peur quand elle arrivait en haut de cette échelle, parce que c'est quelque chose dont, dit-elle, dont je ne suis pas consciente quand je performais la pièce au départ. Et donc ce n'est qu'avec les nombreux visionnements de la vidéo moi-même, les gens qui sont venus la voir, qui m'ont fait des retours également, que j'ai réalisé à quel point il y avait des moments dans la pièce où les gens pouvaient ressentir des choses, pouvaient être troublés, pouvaient être amusés, pouvaient être effrayés. Et c'est de cette manière-là que j'ai aussi rajouté des éléments dans la pièce, que je l'ai enrichi, que je l'ai aménagé, parce que moi-même j'étais trop à l'intérieur pour pouvoir le ressentir, et donc il a fallu ces éléments d'extériorité, comme la vidéo, comme le public, pour pouvoir rajouter ces petites interactions, ces petites clés à certains moments précis.
But it's not also just about finding ways to manipulate people's emotions during the piece. I mean, the piece deals with death a lot in as the subtext. I mean, it's so that was one opportunity also to flirt with death, and I don't mean death just like dying, but also the exercise of maybe it's a little bit Buddhist or whatever, but dying constantly, in a way, resigning to what is happening, giving up the expectations of what you thought it should be, stop trying to force something to exist or force something to live, but continue dying as a form of acceptance so that you can live somehow. Oh, so moral.
Mais donc c'est pas du tout une manière de manipuler les émotions des gens, c'était une manière d'évoquer d'une certaine manière la mort, puisque toute la pièce tourne autour de l'idée de la mort, mais pas de la mort au sens de l'opposition de la vie, la mort au sens de la question de comment la vie se renouvelle, comment est-ce que dans un sens peut-être bouddhiste, dit-elle, je peux imaginer que la vie va recommencer à de nombreuses reprises et...
Résignation.
Voilà, une forme de résignation, de refus
Can
en fait.
Hein. Résignation? Non.
Le fait d'être.
Acceptance de le moment, qu'est-ce qui se passe à cet instant?
Oui, alors, pardon.
C'est juste un constat, c'est la troisième pièce où je vois Marie-Caroline, c'est lui dire le plaisir que j'ai à chaque fois de la voir dans ses colères. Parce qu'elles surviennent toujours sur scène, de manière absolument comme ça, c'est une espèce de feu jaillissant. Et j'adore, volontairement, je sais que c'est maîtrisé, hein, je sais que c'est travaillé, mais j'aime profondément la manière dont vous entrez dans la colère, contre le monde et les objets. Voilà.
Bien, nous allons vous remercier beaucoup, toutes les deux. Merci Benoît d'avoir assuré cette traduction. Merci à vous d'être resté un peu et puis on vous donne rendez-vous donc demain ici même pour la pièce de Daniel Linan ici, mais auparavant à la Saint-Sauveur, à la gare Saint-Sauveur, vers 18h, je pense, il y a le solo performance de Fanny de Chaillé, exécuté par Christine Pombal, Gonzo Conférence, voilà, que je vous conseille de ne pas manquer. Et puis, bien sûr, notre deuxième journée de colloque demain, toute la journée, à partir de 9h30 à Saint-Sauveur. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée.